Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen.
Les amis, on va accueillir notre invité de la semaine. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Poulpe.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Ok, j'en connais un qui me fout de la merde.
Si je me mets là ou là.
Mets-toi ici, c'est très bien. C'est très
bien.
Poulpe, comment ça va?
Je suis très content d'être dans Backseat parce que ça veut dire que je suis hyper intelligent. Du coup, ça veut dire que quand t'es invité dans Backseat, c'est ça, je crois.
Non. Alors, il y a un mec qui est très con qui est en train d'animer Backseat. Désolé.
Tant pis.
Désolé.
Non, je suis très content d'être dans Backseat. Déjà parce que le générique est de Toxic Avenger.
Oui, qu'on embrasse.
Et je le connais depuis trop longtemps. Donc, un bisou à Toxic Avenger et puis surtout un bisou à Jean qui est pas là, mais qui est devenu l'égérie de la bipolarité, si on peut dire ça. Mais en tout cas, je trouve ça hyper courageux d'en parler. Ouais, c'est moi, je suis invité dans le bac. et je trouve ça hyper courageux de le faire et de le dire. Et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à parler de santé mentale, surtout dans ces métiers-là. Alors, t'en as de plus en plus maintenant des youtubeurs et tout qui commencent à en parler, je trouve ça super bien et hyper important d'en parler parce que faut que les gens connaissent ça, en fait, ça, voilà, sachent que ça existe et c'est voilà. Donc un gros bisou à Jean et bravo pour ce qu'il a fait. Ouais.
On l'embrasse. Tu as un spectacle en ce moment qui tourne?
Ouais, alors c'est vrai que j'arrive, je parle de bipolarité, ça donne pas hyper.
Ouais, mais
c'est vrai que je parle de santé mentale dans mon spectacle.
Okay. Donc on peut te retrouver où?
Ça s'appelle Nombril. Bah là, demain soir, je suis à Yvetot.
Okay.
Et après, je regarde les autres dates parce que je découvre. La semaine prochaine, je suis à Brest. Et enfin, voilà, je suis là.
Okay.
Je suis là.
Au théâtre de la Renaissance.
Et
donc
je suis à Paris, mi-mai. Mais okay. Le plus important, c'est quand même, je suis partout en France. Et ça, c'est trop cool. Et en Belgique aussi. Je suis trop content d'aller jouer en Belgique. Mais c'est vrai que c'est un spectacle qui parle de santé mentale. Là, je m'en rends compte en parlant maintenant.
T'as ton émission. Je vois Toast. Je vois Popcorn. Je vois Top Gear. T'en fais des choses en ce moment, purée.
Eh oui. Car je suis tentaculaire.
Bravo, on applaudit ça aussi,
merci,
s'il vous plaît.
Merci.
Ok.
Fallait que je rebondisse à moi-même.
Non, pas du tout.
Ah non,
tout.
T'as eu une insulte
ça me faisait,
dans ton oreillette.
Ça me faisait très rire de laisser ce moment de silence.
D'accord.
Évidemment, tout ceci est maîtrisé. Poulpe, t'étais déjà sur
le silence maîtrisé, c'est ça?
Ouais, bah oui.
Ok.
Ouais. T'étais déjà sur YouTube au moment où ça s'est créé. T'as fait une petite pause ensuite, t'as fait de la musique, de la télé, de la radio, du cinoche. C'est pas commun comme carrière, ça.
Bah après, moi, c'est aussi pour ça que ma carrière est pas ouf. C'est que, en fait, moi, je suis pas du tout dans ce truc de « Ok, je fais ce truc-là et je le fais tout le temps. » Il y a quand même cette phrase qui est très cliché, mais qui est très vraie en France, c'est qu'on aime bien que les gens soient dans des cases. Mmh. Et c'est vrai que moi, je pars pas de ce principe-là, je pars de mon idée. Et quand j'ai une idée, je réfléchis à comment je peux l'exploiter. Et sur quelle plateforme peut mieux le vivre, mon idée. Donc ça peut être de la BD, ça peut être du numérique, ça peut être du cinéma, de la série, de la chanson, peu importe. Donc je pars d'abord de l'idée et après j'explore. Et moi, je préfère aller explorer les formes d'expression que m'en cantonner à une seule.
Comment tu fais pour garder ta communauté en changeant à chaque fois de format, de genre ?
Franchement, j'en ai aucune idée et tant mieux que j'ai ces gens-là parce qu'ils sont trop cool. Ça veut dire que c'est des gens curieux. Donc c'est la meilleure communauté du monde. Après, elle est petite. Mais en tout cas, non, je suis hyper content d'avoir ce public qui me suit dans tous ces trucs étranges. Et justement, j'ai fait aussi ce spectacle pour ça. C'était pour les voir en vrai.
Ouais.
Parce que il n'empêche que tu restes quand même tout le temps derrière un écran et t'as quand même une distance avec ton public quand tu fais soit de la télé, soit du cinéma, soit du internet. Et c'est vrai que j'avais envie de revenir dans du vrai et de toucher, de postillonner sur les gens et qu'ils sentent mes muqueuses.
C'est cool, hein?
Ouais, un échange de muqueuses, c'est ça.
T'es arrivé sur... d'ailleurs, c'est qui comment tu définirais ton public? C'est qui ton public?
Des gens super.
Ouais, ok.
J'ai un mélange de plein de trucs, c'est que j'ai
en tranche d'âge,
c'est très mélangé, c'est que j'ai les vieux geeks de No Life, j'ai les jeunes de Twitch, j'ai les vieux de France Inter, j'ai les sac à vin de recettes pompettes.
Ouais.
Enfin, ça, y a un peu tout ça qui se mélange. J'ai les pervers de crac-crac. Enfin, j'ai vraiment plein de trucs. Donc, je sais pas, une espèce de mail. Moi, je dirais que c'est des curieuses et des curieux avant tout.
Et moi, j'ai envie de te dire que les sacs à vin des recettes pompettes sont toujours vivants grâce à toi. Et ça, c'est beau.
Ils survivent. Hein,
ah, ouais.
C'est étonnant.
C'était pas gagné. C'était pas gagné à la base.
Ouais, vu le froid, c'est étonnant.
Tu l'as dit, t'es arrivé sur Twitch en 2021.
Ouais.
C'était pas un peu tard?
Alors, en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais aller sur Twitch, mais j'étais le gars qui habitait dans le seul immeuble du 11e arrondissement de Paris qui
n'avait pas
la fibre. Et donc, il a fallu que je déménage pour enfin avoir la fibre. Et là, j'ai dit « Ok, là c'est parti ».
Peux streamer.
Et là, direct, j'ai fait des émissions sous THC sur Twitch. On sentait la frustration du gars qui… Voilà. Donc, j'ai fait énormément de formats différents et j'aime trop cette plateforme. Et alors, des fois, moi, j'ai une relation un peu… des fois, je suis là, des fois, je suis moins là. Mm-hmm. Mais je m'oblige à créer des formats qui m'obligent à être là. C'est que, par exemple, l'an dernier, je faisais une matinale pour être sûr que je stream tous les matins. Là, je fais Toast en ce moment, qui est une hebdo.
C'est quoi le principe de Toast ?
Toast, c'est le rendez-vous des bons copains.
Okay.
Donc, je reçois des amis chez moi et on porte des toasts. Le problème, c'est que j'ai une tournée de spectacle en même temps, donc c'est compliqué d'installer des dates récurrentes.
Ouais.
Et grosso modo, c'est une hebdo. Ouais. Et là, on voit, là, ça va, c'est le début, je suis sobre.
Ouais,
Là, je suis sobre. Là.
À la fin, c'est pas la même histoire.
Ouais.
Qu'est-ce que tu y trouves à Twitch ? Pourquoi cette plateforme ?
En fait, j'aime l'immédiateté de la création, c'est que t'as une idée, 10 minutes de Photoshop après, tu peux streamer et t'as ton truc. J'aime l'interactivité avec et le public. Mais
t'accueilles aussi... qui là dans Toast déjà ? Excuse-moi.
De quoi ?
Tu accueilles qui dans Toast ? C'est qui tes invités ?
C'est des amis.
Des copains, ok. Ouais, qu'on connaît,
là,
nous.
Là, il y a Aymeric Lompré, par exemple.
Ok, ouais, on adore.
La semaine prochaine, j'ai Eddy De Pretto.
Ok.
Dans 3 semaines, j'ai Éric Zemmour. Enfin, que des potes, quoi.
Waouh!
Enfin, la famille.
Ouais! Voilà. Les copains.
Voilà. Et donc, ouais, non. Et puis, ce truc interactif que je trouve vraiment génial, mais je vais pas l'expliquer. Enfin, les gens sont sur Twitch, ils savent de quoi on parle. Arrête avec tes questions, quoi.
Ouais, mes questions de merde. Les copains, des questions? Non. Vous êtes juste très, très, très.
Quelle ambiance. Tu gagnes ta vie sur Twitch ou pas?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Mais ça, c'est la question que.
Est-ce que tu fais de l'argent?
Ça, c'est les cousins. Quand t'arrives à un mariage, t'as le cousin qui vient te dire « Hey, t'es youtubeur, tu gagnes combien ?» Je gagne de l'argent sur Twitch.
Ouais, ok.
C'était juste ma question. Pas besoin de donner le chiffre.
Trop bizarre.
Tu nous as dit en préparant l'entretien que t'allais pas. Alors tu nous annonces que tu remontes sur scène, mais tu nous as dit en préparant l'entretien que ça allait pas durer très longtemps.
Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, je fais mes projets, je les fais pendant 2-3 ans. Parce
par cycle.
Je me lasse assez vite. Et du coup, là, ça va faire 2 ans que je suis sur scène et voilà. Ça y est, j'ai fait le truc, c'est cool. Enfin, ce spectacle-là, j'ai envie d'en faire d'autres. Un spectacle, c'est hyper évolutif, tu changes le texte tout le temps. Moi, je me suis laissé aussi beaucoup d'impro, donc c'est cool. Mais ça va faire 2 ans, j'ai envie de faire d'autres trucs là.
Tu vas passer aussi derrière la caméra bientôt avec Top Gear.
Ouais.
Il va se passer quoi, dis-moi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Donc Top Gear, c'est une émission
de bagnole,
de voiture, mais aussi de divertissement. Maintenant animé par le duo ex-Villebrequin, donc Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. Et donc en gros, j'ai été ramené pour coécrire l'émission, donc ramener de la comédie, du divertissement, mais aussi les aider eux à faire cette transition YouTube-télévision, qui est un truc qui n'est pas forcément hyper facile. Moi, je l'ai connu il y a quelques années, donc voilà, ils m'ont appelé pour ça. Et puis très vite, je me suis retrouvé en réal de cette émission. C'est un job que j'adore faire et que je découvre. Et je pense que ça va être ma prochaine grosse activité l'an prochain. Je vais faire ça. Ouais.
Ok. Tu connais ces Backseat, Poulpe ?
Je connais de loin parce que je m'intéresse pas du tout à la politique. Mais
c'est quoi ton rapport avec la politique ?
Il est étroitement éloigné.
Ok. C'est bien dit.
Ouais. Mais j'aime bien Jean Massier.
Ouais. Moi aussi, c'est un mec que je connais vite fait. Ouais, je l'apprécie.
Mais malheureusement, il s'intéresse à la politique, donc on n'a pas trop de trucs à se dire non plus. Mais non, je quand j'ai dit que j'allais dans Backseat, il y a plein de gens qui m'ont dit oh putain, tu vas dans Backseat. Et plein de gens différents.
Ok.
Donc je trouve ça génial de voir que ça touche plein de monde différents. Je trouve ça super.
On les embrasse, on les remercie. Est-ce qu'on va voir Poulpe? Parce que le fait de passer derrière la caméra fait peut-être qu'on va se dire qu'on va avoir moins de poulpes. Est-ce que c'est le
ouais,
cas?
Ouais, mais c'est pas grave parce que ça reste de l'écriture, ça reste du. Enfin, moi, je m'en fous d'être. Je travaille pour plein d'artistes sans qu'on le sache et je suis pas à l'image.
Ce que je voulais te dire, est-ce que t'as d'autres projets aussi?
Non, mais j'ai pas l'ego de devoir absolument être en premier rôle. Je sais pas quoi. C'est pas du tout mon truc. Donc non, au contraire, moi, j'ai toujours besoin de bosser pour d'autres de temps en temps parce que je veux pas croire que je suis super à l'image déjà. Et puis surtout, ça me nourrit de travailler avec d'autres énergies, d'autres gens, d'autres équipes techniques. Donc je trouve ça très important dans ce métier de toujours se nourrir de nouvelles énergies. Donc j'aime faire ça. J'aime ne pas être à l'image de temps en temps. Ouais.
Tu as fait de la radio sur France Inter. Tu as pu y faire de très belles chroniques, mais tu as aussi fait une chronique où on t'a pointé pour son sexisme. Tu t'es excusé d'ailleurs sur la chronique qui a suivi juste après. On a vu aussi Guillaume Meurice il y a quelques mois qui a été pointé du doigt et épinglé pour une vanne qu'il a faite à la radio. Est-ce que c'est dur de faire rire à la radio?
En fait, je trouve que l'exercice, il est très compliqué. Moi, étant un mec d'image, ça m'intéressait d'aller justement expérimenter ce truc de juste de la blague de son. Bon, très vite, je me suis rendu compte qu'il y a des caméras dans le studio.
C'est filmé maintenant.
C'est filmé. Mais j'ai voulu essayer cet exercice-là. Je me suis retrouvé dans une émission qui était très politisée, l'émission de Sharon Van Acker, et qui est, moi, un truc où je pense qu'il y avait une erreur de casting. J'avais pas trop ma place là-dedans. Très vite, je me suis rendu compte que bon, il faut que je fasse des blagues sur Macron ou Zemmour pour faire de l'audience. Et je me suis dit, bon, une fois que j'ai lu le cheat code, voilà, je pense qu'on peut passer à autre chose. Mais donc, du coup, j'ai essayé d'aller un peu taper sur d'autres sujets. Et je suis allé sur un truc. Et en fait, faire de l'humour, mais tous les humoristes se sont toujours plantés, de toute façon.
Ok.
Parce que tu vas toujours aller faire une blague, c'est aller tester la limite, en fait, et voir jusqu'où tu peux aller. Dans un truc de 3 minutes 30, où t'as pas le temps de vraiment, tu vois, prendre le temps d'expliquer ta vanne et tout, des fois, il y a des trucs, t'as pas le temps, tu vas vers la facilité et tu fais une blague ratée. France Inter, c'est la radio la plus écoutée de France, donc dès que tu fais un truc qui peut toucher une communauté, tu vas t'en prendre plein la gueule. Je suis pas en train de dire, on peut plus rien dire, pas du tout.
Ouais, ouais.
Mais c'est juste qu'on est dans un numéro d'équilibriste qui est à la fois intéressant, des fois un peu chiant, parce que tu dis, putain, faut que je réfléchisse 20 ans à faire un truc de 3 minutes, des fois c'est un peu relou. Donc moi, quand j'ai compris que j'avais fait une maladresse, j'ai choisi de la chronique d'après, j'aurais pu passer à autre chose. Il y a plein de collègues humoristes qui m'ont dit, mec, tu t'en fous, passe à autre chose.
Ne dis rien, entra.
Moi, je me suis dit, non, en fait, je veux y aller, j'ai fait une connerie, je vais faire un truc d'excuse. Évidemment, le truc d'excuse est 15 fois moins écouté que le truc, voilà. Mais au moins, moi, je l'ai fait, je suis droit dans mes bottes et c'est cool. Maintenant, pour te répondre, est-ce que c'est dur de faire l'humour? Je pense pas. Je pense qu'il faut juste faire gaffe quand tu sais que tu vas sur des trucs un peu touchy, il faut que tu fasses un peu plus attention. Et moi, maintenant, je me fais vachement relire par, tu vois, des gens que je connais. Mais après, j'ai pas l'impression que ça soit plus compliqué qu'avant, quoi.
Ok. Poulpe, on t'a demandé si tu voulais mettre une initiative en avant, une association en avant. Je sais que nos viewers aiment bien cette séquence. L'initiative de la semaine, on accueille L214. On accueille Brigitte Gauthier, qui est porte-parole directrice de L214. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Ça va, ok. Poulpe, pourquoi t'as décidé, c'est toi qui nous a proposé de recevoir L214, c'est une asso que tu connais bien?
Ouais. En fait, je suis devenu végétarien il y a, je me rappelle plus maintenant, il y a 5 ans, je crois, 5-6 ans.
Ok.
Et c'est comme tout le monde, on voit des vidéos L214 passer dans son feed vidéo. Et en fait, moi, j'en avais vu 1000 avant. Et en fait, si j'en ai vu une par hasard qui est tombée, et en fait, ça m'a fait vriller parce que j'ai découvert un truc que je connaissais pas, qui est au-delà de la torture dans les abattoirs, machin. C'est un truc encore plus dingue. Ça s'appelle les fermes à sang. C'est un truc sur qui, voilà, bon, c'est horrible, mais voilà, ça se passe.
Tu nous expliques ce que c'est les fermes à sang?
En gros, le principe, bon, là, on est dans le glauque du glauque, hein, mais en gros, c'est essentiellement en Amérique du Sud. Tu me dis si je dis de la merde, mais en gros, ça se passe surtout en Amérique du Sud. C'est des élevages de juments qu'ils inséminent de force, et une fois qu'elles sont enceintes, ils les torturent pour qu'elles créent une enzyme, qu'elles ne peuvent fabriquer que quand elles sont enceintes. Et cette hormone-là, une fois qu'elles les fabriquent, ils les prennent dans du sang et ils en font des cosmétiques, des produits cosmétiques qui sont utilisés partout dans le monde ensuite. Donc c'est inséminer de force un animal puis le torturer, puis ensuite récupérer le sang. Je savais pas que ça existait. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, non, mais là, on vit dans un monde pas possible. Qu'a été ensuite... j'ai enchaîné deux autres trucs dans la même journée, et le soir même, je me suis dit, bon, c'est, je deviens végétarien. Donc du coup, L214, je partage quand je peux toutes leurs actions, parce que c'est hyper important de se rendre compte de ce qu'on mange et ce que les animaux subissent, quoi.
L214, vous existez maintenant depuis 2008. Brigitte, est-ce qu'on peut dire que votre militantisme a évolué depuis ?
Non.
Okay.
Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'on a toujours eu à cœur de... d'avoir déjà un discours qui est assez clair. Ce qu'on fait subir aux animaux, c'est absolument terrible. On a pu montrer des images dans des élevages, pendant les transports, dans des abattoirs, tous les modes d'abattage, que ce soit avec étourdissement, sans étourdissement, du bio, du label rouge, du standard, du halal, du kasher. Enfin, voilà, on a fait un petit peu le tour de la question pour essayer de montrer la réalité de ce que vivent et comment meurent les animaux. Pour questionner en fait notre société qui continue, alors quand même, voilà, on est en 2024 maintenant,
ouais.
Qui continue de se nourrir d'animaux au moment où on en a le moins besoin et où, si on va regarder encore plus loin, ça va nous créer des problèmes. En ce moment, il y a beaucoup les discours sur la souveraineté alimentaire.
Ouais, on en parlait juste
avant.
En fait,
ça masque la fragilité alimentaire en fait qui est créée par nos modes de consommation. Puisque quand on consomme de la viande, en fait, on consomme beaucoup plus de terre, beaucoup plus d'eau, on déforeste, etc. Mais surtout, il y a les animaux qui sont des êtres doués de sensibilité comme nous, qui peuvent vivre leur vie bien ou mal, qui ont leur propre personnalité. Hein, pour les personnes qui habitent chez un chat ou avec un chien, on voit très exactement les personnalités qui peuvent exister. Les autres animaux, ceux qui sont dans les élevages, c'est les mêmes personnalités qui peuvent s'exprimer. Donc, c'est super important. Et donc, on est connu pour les images qu'on montre, pour les faits qu'on dénonce, pour les campagnes qu'on mène, qui ont amené justement à réduire le nombre de poules élevées en cage. Quand on a commencé, 80% des poules pondeuses étaient dans des cages. Ce chiffre a baissé à 23% aujourd'hui et devrait s'acheminer vers zéro en 2025 parce qu'on a fait prendre des engagements... en encourageant gentiment les supermarchés, l'hôtellerie-restauration, les fabricants et même les producteurs à s'engager à ne plus utiliser d'œufs de poules élevées en cage, par exemple. Donc ça, c'est notre côté, on dénonce, mais on n'est pas juste dans la dénonciation, on est aussi dans les solutions.
C'est ce que je voulais te dire, on vous connaît par vos actions coup de poing, par des images révélées, mais on le disait, L214, ce n'est pas que ça, c'est même des fois des images très mignonnes, que tu peux peut-être nous montrer d'ailleurs.
Oui, j'ai amené quelques trucs parce que, alors on ne le sait pas, mais L214, on a un journal qui s'appelle Mon Journal Animal, qui paraît 3 fois par an, qui est destiné aux 10-14 ans. Et là, on va plutôt aller sur les questions d'éthologie. Et donc, on va traiter des thématiques. À chaque fois, il y a un grand dossier. Et puis, on va aller sur ces sujets-là. On a aussi un site qui s'appelle Vegan Pratique, où là, on va parler. Donc, on s'adresse souvent au cœur et puis... à la rationalité, là, on s'adresse au ventre avec notre site Vegan Pratique et puis avec un bouquin pour pouvoir faire des recettes. Ça, c'est super important. Donc, on a vraiment la démarche à la fois de dénoncer et à la fois de proposer. On va parler de modèle agricole, de modèle alimentaire, comment on peut faire une transition. Notre idée, ce n'est pas d'être contre les éleveurs, contre les ouvriers d'abattoir ou quoi. C'est vraiment la question d'un système qui, évidemment... tue énormément d'animaux. On tue 3 millions d'animaux par jour en France. Et on ne parle que des animaux terrestres, pas des animaux marins. 3 millions, je ne me trompe pas, c'est vraiment par jour, juste en France. 80% d'entre eux proviennent d'élevages intensifs, c'est-à-dire d'élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Donc non seulement on se sert d'eux comme de la nourriture, mais en plus on leur fait vivre des conditions de vie qui sont absolument abominables.
En fait, ce qui est important, c'est pas de se dire que quand il y a des messages comme la L214, en fait, faut pas le vivre comme une agression dans son feed ou sur son écran ou quoi. En fait, c'est vraiment de l'information. Et après, chacun choisit ce qu'il veut et ce qu'il veut faire dans son assiette ou quoi. Je pense que la décision de devenir végétarien, c'est tellement perso que de toute façon, faut pas le vivre comme une agression. Mais par contre, c'est bien d'aller de temps en temps quand même aller s'informer. Et c'est vrai que la L214 est connue pour les images hyper choc parce que c'est une réalité. Mais il y a aussi effectivement d'autres façons de se renseigner. Mais franchement, allez voir les réseaux de L214 et essayez de dépasser ce truc de « Ah, je me fais agresser la rétine », c'est une réalité. réalité, mais il y a d'autres choses aussi dans le message, quoi.
Une question de Claire ?
Ouais, moi j'avais une question. Depuis la création de L214, est-ce que tu sens une progression quand même dans la réception des messages que vous portez ? Moi j'ai une histoire similaire à la tienne. Je suis végétarienne depuis 10 ans et je pense que le rôle des images choc là-dedans a joué beaucoup. J'ai l'impression d'être pas être la seule et qu'il y a peut-être une dimension générationnelle là-dedans. Je voulais bien ton avis là-dessus parce que ça va souvent aussi avec la sensibilité écologique au sens plus large. Donc, est-ce qu'il y a ce mouvement-là qui se produit ? Dans quelle dimension ? Assez pour produire des changements politiques majeurs ou pas encore ?
On a vu un changement de mentalité un peu, puisqu'il y a 15 ans, quand on parlait de défendre les animaux, on parlait surtout des chiens et des chats. Et aujourd'hui, quand on parle de défendre les animaux, on pense aussi aux animaux qui sont dans les élevages. Donc, je pense qu'on a réussi, alors pas que nous, hein, il y a eu aussi des bouquins qui sont sortis, des reportages, documentaires, etc. Mais on a contribué en tout cas à mettre les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, et du coup à faire émerger la question animale en questionnant jusque loin, hein, vraiment en questionnant jusque l'utilisation des animaux, jusqu'au spécisme, c'est-à-dire la frontière que nous, on a tracé entre d'un côté les êtres humains et de l'autre côté tous les autres animaux. Et c'est ça qu'on questionne et on montre les effets de ce spécisme, justement, dans la non-considération absolue du moindre intérêt des autres animaux. Donc voilà. Et après, on a des campagnes qui font des changements dans la loi très peu, hein, parce que malheureusement, c'est compliqué. Mais par contre, dans les entreprises, on arrive à changer des choses. En ce moment, on a une campagne qui vise le numéro 1 du poulet. C'est le groupe LDC qui a les marques Le Gaulois, Marie, Maître Coq. On a une campagne où on colle des stickers sur les barquettes. Vous pouvez commander gratuitement dans la boutique en ligne de L214. C'est repositionnable, donc on ne peut pas se faire accuser de dégradation. Et l'idée, c'est de montrer, par exemple, les poulets. Les poulets, c'est 40 000, par exemple, dans un élevage. C'est 22 par mètre carré, c'est juste complètement énorme. Et surtout, c'est des souches génétiques sélectionnées qui font qu'aujourd'hui, un poulet, en 40 jours, il prend 60 fois son poids. Son poids est multiplié par 60. C'est juste c'est complètement fou.
En fait, on en parlait juste avant d'arriver sur le plateau, mais c'est le film Okja sur Netflix. Il y a moins de 10 ans, c'était de la science-fiction. Et en fait, c'est
la réalité.
Ouais, on y est pour de vrai, ce qui est fou, quoi.
Brigitte, rapidement, je sais que je suis méchant à être le maître des horloges. Vous proposez qu'on diminue de moins de 50% notre consommation de viande d'ici 2030. Pourquoi cet objectif intermédiaire ?
Parce qu'on est des extrémistes. En vrai, on aimerait bien une diminution de 100%.
Ouais.
Voilà, mais en fait, on est extrêmement pacifiste. Et puis, on comprend que notre société, aujourd'hui, culturellement...
n'est pas prête.
Elle n'en est pas là.
Okay.
Donc, on va avancer progressivement. Et le moins 50% d'ici 2030, donc ce serait moins 50% d'animaux tués. Ce qui veut dire moins 50%, effectivement, de viande, de poisson. Ça veut dire aussi agir sur notre consommation de lait et d'œufs. On n'augmente pas parce qu'on arrête de manger le corps des animaux. Et c'est un objectif pragmatique qui va bénéficier aux animaux qui ne seront pas utilisés pour être mangés, mais qui vont bénéficier aussi sur la question de l'eau, sur la question de la déforestation, sur la question aussi sociale. On voit que dans le milieu agricole, c'est absolument terrible. Là, je parlais de Le Gaulois LDC. C'est des contractualisations qui réduisent aussi les éleveurs dans une forme... ils utilisent le terme d'esclavage moderne. L'endettement moyen, par exemple, d'un éleveur d'oiseaux, c'est au-dessus de 200 000 euros, par exemple. Donc, c'est bon à savoir aussi en changeant notre façon de nous alimenter... on joue sur tout un tas de leviers. Enfin, en fait, c'est un levier unique qui en actionne 10, 15 autres derrière. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et donc, c'est quelque chose qu'on va porter auprès des entreprises, mais qu'on va porter aussi politiquement au niveau municipal, national et bien sûr européen.
Comment on peut vous rejoindre, L214 ?
L214, venez comme vous êtes.
Okay. Comment on peut aider ?
Il y a tout un tas d'actions qui sont proposées. On a une lettre d'info qui fait les propositions d'actions. Mmh. Pour celles et ceux qui sont plus engagés, on a des actions de terrain. On a 50 groupes locaux, c'est 3000 bénévoles quasiment, que je remercie, 50 000 membres aussi. Pareil, sans toutes ces personnes, on ne pourrait rien faire. Et du coup, c'est comme ça qu'on avance, qu'on pose des jalons, qu'il y a des choses qui passent auprès des entreprises ou dans la loi, même si c'est des tout petits pas, ben c'est toujours bon à prendre. C'est des changements d'habitude aussi, on accompagne, hein, on a un Veggie Challenge pour découvrir l'alimentation végétale et puis se lancer. Et puis voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, nous suivre sur les réseaux sociaux, repartager justement les enquêtes ou les actions qu'on va faire. Vous pouvez commander les stickers et puis participer avec nous à faire remonter par l'intermédiaire des supermarchés cette demande aux premiers producteurs. Les poulets, c'est 800 millions qu'on tue chaque année. C'est quand même juste énorme.
C'était l'initiative poussée par Poulpe, L214, avec Brigitte Gauthier, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Et pour remercier.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
Poulpe reste avec nous en plateau. Merci.